J'ai maintenant le très grand plaisir de vous présenter une grande dame de notre domaine, Madame Claire Kranz, notre conférencière d'ouverture. Madame Kranz, bienvenue à Montréal. L'AFTC, l'Université McGill, l'Université de Montréal, nous tous ici, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous à l'occasion de ce colloque. Après avoir étudié à Paris 4 Sorbonne, Mme Kranz est normalienne et agrégée d'allemand, Claire Kranz a émigré aux États-Unis. Elle a enseigné au MIT et à Cornell University, puis finalement à l'Université de Californie à Berkeley, où elle a fondé en 1994 le Berkeley Language Center, qu'elle a dirigé pendant de nombreuses années. Et c'est dans cette université à Berkeley qu'elle enseigne aujourd'hui la linguistique appliquée, l'acquisition des langues étrangères à la Faculté des sciences de l'éducation, en plus, bien sûr, de diriger des doctorats au département d'allemand. Très active dans le domaine de la formation des professeurs de langue au cours des 30 dernières années, Claire Kranz a beaucoup écrit sur la langue, sur le discours et la culture. Bien entendu, un très grand nombre d'articles, mais aussi de nombreux ouvrages qui sont autant de repères essentiels dans notre domaine, dont « Interaction et discours dans la classe de langue » en 84, « Context and Culture in Language Teaching » en 93, « Language and Culture » en 98, « The Multilingual Subject » en 2009. Elle est aussi l'éditrice de plusieurs livres, dont en 2002, Language Acquisition and Language Socialization, Ecological Perspectives. Elle a été présidente de l'Association américaine de linguistique appliquée et éditrice de la revue internationale Applied Linguistics. Claire Kranz a reçu de nombreux prix et distinctions, entre autres la médaille Goethe, pour sa contribution exceptionnelle à une meilleure compréhension interculturelle entre l'Europe et les États-Unis. Elle a aussi reçu le prix MLA et le prix de l'enseignement de Berkeley, ainsi que plusieurs doctorats honoris causa. Claire Kranz, c'est un privilège que de vous accueillir parmi nous. Votre sujet, la composante symbolique de l'interculturel, nous interpelle. Il nous resitue, comme vous le dites si bien, au carrefour de systèmes symboliques complexes, dont il faut absolument avoir conscience alors que nous agissons dans un monde de mouvances interculturelles accélérées. Merci d'être là avec nous.
Merci de votre chaleureuse introduction, généreuse introduction. Merci de l'invitation de vous adresser la parole ici à Montréal. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue à Montréal. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait d'intervention en français. Ça me fait toujours plaisir de parler français, ma langue maternelle, mais malheureusement, je ne parle d'habitude que l'anglais et l'allemand dans mon propre département. Donc, merci, merci. Je suis un peu intimidée après cette table ronde brillante de nos écrivains là tout à l'heure, qui nous a donné vraiment déjà la dimension expérientielle, la dimension personnelle, la dimension intime et créatrice de cet interculturel dont je vais parler. Je compte donc vous adresser la parole en deux temps. Dans un premier temps, et je vais essayer de me tenir à l'heure, quand même, parce que je m'imagine que vous avez besoin d'un café ou peut-être d'un cocktail. Donc, je vais vous faire un tour d'horizon de ce que, dans la branche avec laquelle je m'associe, c'est-à-dire la Applied Linguistics, qui n'est pas tout à fait la didactique des langues, et pas tout à fait la linguistique appliquée, mais entre les deux. Au point de vue théorique, comment positionne-t-on maintenant l'enseignement de la culture dans les cours de langue ? Cet enseignement de la culture est devenu beaucoup plus complexe qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans à cause de la mondialisation, à cause de la diversification des sociétés dont nous enseignons les langues nationales, il n'y a plus de culture nationale singulière, tout ça c'est devenu pluriel, c'est devenu diversifié. L'Internet et les réseaux d'informatique mondiaux ont vraiment diversifié les cultures sont devenues portables, sont devenues des lieux de mémoire dans la tête des gens, ce ne sont plus des monuments, des institutions qu'on peut voir sur place. Pour nous, pour professeurs de langue, tout ça c'est devenu beaucoup plus compliqué. Je voudrais un petit peu faire un tour d'horizon avec vous de cette complexité. Et dans un deuxième temps, dans mon intervention, je voudrais vous engager dans une réflexion sur, alors, comment justement sensibiliser les élèves de langue à l'interculturel, c'est-à-dire à ce dialogue dont M. de Fontenay parlait dans son introduction, ce dialogue à travers les cultures, à travers les langues. La plupart de nos élèves à Berkeley sont à peu près 90% des 40 000 élèves auxquels nous avons affaire à Berkeley sont déjà bilingues, sinon trilingues, sinon quadrilingues. Eux aussi sont à travers les cultures, les langues, etc. Donc nous ne leur enseignons pas une langue étrangère à des gens qui sont monolingues. Nous enseignons déjà à des gens qui sont trilingues. Que font-ils pour se positionner entre ces cultures? Et je vous engagerai dans ce genre de réflexion avec moi. Donc, commençons d'abord par comment devons-nous concevoir à l'époque actuelle la culture en classe de langue. Je vais prendre d'abord à grande échelle et ensuite la petite échelle. La grande échelle traditionnelle, ce sont évidemment les faits historiques, les faits sociaux, les institutions, les monuments, et ce que Pierre Nora a appelé les lieux de mémoire, qui finalement font l'objet de nos manuels de langue. Moi, mon manuel d'allemand ne peut pas exister sans la Brandenburger Tor, la chute du mur de Berlin, et des faits historiques comme ça que tout le monde reconnaît et qui sont ma responsabilité de leur enseigner. Il y a aussi évidemment les mythes nationaux. Dans une vue traditionnelle de la grammaire, on parle de la culture au sens national. Et il y a des raisons pour cela, c'est que nos départements dans les universités sont encore découpés en départements d'allemand, départements de français, départements d'italien, reçoivent de l'argent de leurs gouvernements respectifs. Notre département d'allemand à Berkeley reçoit de l'argent du gouvernement allemand pour enseigner l'allemand aux États-Unis. Donc nous avons en fait, en tant qu'enseignants de langue, nous avons aussi une dette vis-à-vis des gouvernements qui financent notre enseignement des langues nationales. Donc tout ça s'est mêlé à des intérêts politiques, des intérêts économiques, évidemment. L'Angleterre et les États-Unis ont intérêt à vendre l'anglais en même temps que les produits économiques qui vont avec l'anglais. Donc tout ça, ce n'est pas simplement de la culture pour l'âme, c'est aussi des transactions financières et économiques. Donc il s'agit de mythes nationaux, de narratifs culturels, des patrimoines culturels, des modes de pensée et des systèmes explicatifs tels que la logique française, l'esprit cartésien à la française. Quand on leur enseigne l'explication de texte, on leur explique que c'est une manière d'expliquer les textes ou les compositions en trois parties ou en quatre parties. Ça fait partie de penser français, se sentir français. Les représentations sociales, évidemment, par exemple, la valeur qu'attache un Français ou les Français à leur langue. La langue fait partie du patrimoine culturel, c'est un trésor national. Tout ça, ça s'enseigne aussi comme culture française. Donc, tous ces mythes au sens ni négatif ni positif, mais mythes au sens de Roland Barthes, c'est-à-dire ces représentations nationales, sont transmises et perpétuées par des systèmes explicatifs, par les médias, par les industries du divertissement et des sports. À grande échelle aussi, ce qu'on appelle la culture, ce sont des modes de vie. Alors, ça fait partie du café croissant, les baguettes sont longues, les pains de seigle sont moins longs, on s'habille comme ci, comme ça pour aller boire un coup au bistrot du coin. Tout ça, ça fait partie, si vous voulez, aussi de ce qu'on trouve dans les manuels de langue, avec leur sémiotique évidemment affective et idéologique. Je voudrais dans cette catégorie aussi inclure ce que Anne-Marie Oudbin, en 2002, a appelé l'imaginaire linguistique, c'est-à-dire toutes ces représentations sur la valeur de la langue d'une manière générale, l'importance de parler bien. Je me souviens quand j'enseignais l'allemand à Télécom, il y a plusieurs années, il y avait un collègue espagnol qui demandait à ses élèves, les jeunes filles qui apprenaient l'espagnol là, que faut-il faire pour séduire une femme en France? Et la réponse c'était, il faut parler bien. Et j'imagine, quand je raconte cette histoire à mes élèves américains, parler bien, tu veux dire qu'il ne faut pas être sexy ou être beau garçon, non, il faut simplement parler bien. Eh bien oui, ça faisait partie de la séduction masculine. Et ça fait aussi partie de l'imaginaire linguistique dont parle Anne-Marie Oudbin, c'est-à-dire l'idéologie de la langue, du parler, de ce que parler veut dire. Au plus tard, avec l'approche communicative, la culture a cessé d'être cette culture traditionnelle, cette culture littéraire, cette culture belletristique, si vous voulez. C'est devenu une culture alors pragmatique, la pragmatique des échanges linguistiques au petit niveau de tous les jours, les comportements verbaux, les actes de langage, les stratégies de prise de parole, les conventions de politesse et les normes d'interaction et d'interprétation qui sont enseignées dans les cours de langue d'une manière assez stéréotype. En France, on fait ci. En France, on serre la main ou on ne serre pas la main. On dit bonjour ou on ne dit pas bonjour. D'une manière générale, la manière traditionnelle d'enseigner la culture, c'était de standardiser ces comportements verbaux à la française, comme on avait standardisé la grammaire, le vocabulaire, etc. Donc, faisant partie de la culture dans cette vue traditionnelle, c'était la praxématique du discours parlé et écrit, les genres, les représentations sociales, etc. Aussi les technologies du verbe, c'est-à-dire les modalités virtuelles, écrites, parlées, etc., et les multiples littératies, c'est-à-dire les différentes fonctions de la langue écrite et de la langue parlée et de la langue virtuelle. J'ai ajouté au bas de cette diapo les modèles cognitifs idéalisés, c'est-à-dire les appréhensions métaphoriques du réel. J'ai mis ça parce que depuis 20 ans, il est devenu acceptable de parler justement des corrélations entre la manière dont on parle et la manière dont on pense, faisant allusion à la théorie de la langue, de la relativité langagière émise par Sapir et Whorf dans les années 30, alors qu'il y a 20 ans, on n'osait pas penser trop que la manière dont on parle est une réflexion de la manière dont on pense. Aujourd'hui, ça ne fait plus de doute. Tous les gens à Berkeley, dans mon département de linguistique, les George Lakoff, les Yves Switzer, les Mark Turner, évidemment, font des recherches fascinantes sur la manière dont le style, c'est l'homme. Le style, c'est une réflexion de la classe sociale à laquelle on appartient, de la région dont on vient, des traditions familiales ou des traditions éducatives qu'on a reçues en classe. Donc voilà, sur ces deux échelles, la manière traditionnelle dont on a conçu la culture, à grande échelle la culture comme grand C, à petite échelle la culture avec petit c, et je vais prendre maintenant deux exemples pour vous montrer combien ça s'est un petit peu complexifié dans les dernières 20 ou 30 années. Voici l'affiche que vous connaissez bien de Roland Barthes, 1974, qu'il a utilisée pour faire un argument sur la naissance des mythes et la composition des mythes. Ceci, c'est une affiche de publicité pour les pâtes Panzani, qui, dit Roland Barthes, ne vend pas seulement des pâtes, et non pas seulement des pâtes et de la sauce tomate pour aller avec les pâtes faites de tomates et de noix de muscade, comme vous voyez, dans un filet à provision qui fait un petit peu corne d'abondance, mais qui est en train de vendre l'italianicité même, c'est-à-dire le mythe de la dolce vita, du fait bon vivre italien. Utilisant une affiche comme ça dans les cours de langue permettait de décoder en fait ces documents culturels et de dire ben voilà comment en France on vend les pâtes panzani et ça correspond à des caractéristiques italiennes nationales, c'est-à-dire la dolce vita, la rondeur et la plénitude de ces objets vous donnaient envie d'apprendre l'italien ou envie d'aller en Italie. On renforçait les stéréotypes nationaux et ça n'offensait personne qu'on baigne dans les stéréotypes. Et en fait, une affiche comme ça capitalisait précisément sur les stéréotypes. Mais je vais vous montrer une autre affiche qui a été choisi à un atelier que j'ai donné en 1993, que j'ai donné en Allemagne, pour enseignants d'allemand, d'anglais et de français aux États-Unis, en Allemagne et en France. Et j'avais demandé aux collègues français d'apporter un document qu'ils pouvaient recommander pour l'enseignement du français en pays étrangers, en particulier aux États-Unis et en Allemagne. Et voici le document que les Français ont eu beaucoup de peine à avoir un consensus sur quel document présenter. Et je m'aperçois ici que je ne peux pas... Bon, ma diapo est un petit peu déficiente ici vers le bas. Vous voyez cette dame qui ressemble à l'impératrice d'Iran, Soraya, dans le temps, qui avec sa main gantée, tient sa carte de crédit et qui montre qu'au bon marché rive gauche, on peut avoir 10% de réduction sur tous les articles de ce catalogue. Et en haut, vous avez rive gauche, il existe encore des privilèges que nul ne souhaite abolir. Cette affiche, qui était sur tous les murs du métro en 1992 et en 1993, a créé une discussion virulente parmi les Français dans le groupe d'enseignants auquel j'avais affaire. Ceux qui avaient choisi cette affiche voulaient précisément montrer le décalage entre l'idéal révolutionnaire républicain, égalitaire, démocratique, etc., et maintenant on vend les articles du bon marché comme des privilèges, les privilèges qui, pense-t-on, ont été abolis dans la nuit du 4 août 1789, mais maintenant on peut les acheter, ces privilèges, avec une carte de crédit. Et mes collègues français voulaient précisément que les enseignants de français à l'étranger enseignent précisément ces inégalités ou ce décalage. En plus, avec rive gauche, regardez cette espèce de R aristocratique à la Versailles, là, et les autres lettres plus démocratiques. Mes collègues français étaient vraiment estomaqué et vraiment choqué de voir cette affiche. Mais les collègues américains n'y voyaient aucun inconvénient. Pourquoi ne pas acheter des privilèges avec une carte de crédit? Aujourd'hui, on peut tout acheter. Donc vous aviez déjà les collègues français, les collègues américains qui n'étaient pas du tout d'accord sur ce que représentait cette affiche sur la culture française. Mais même entre français, entre enseignants de nationalité française, vous en aviez deux qui trouvaient que ce n'était pas le genre de document qui représentait la France et qu'on devait enseigner pour la France à l'étranger. Donc vous aviez les Français qui étaient à la gorge l'un de l'autre, vous avez les Américains, les Allemands et les Français qui n'étaient pas du tout d'accord sur ce que représentait cette affiche. Et je veux utiliser cette affiche pour vous montrer que de nos jours, les sociétés telles que la société française sont beaucoup plus plurielles, sont beaucoup plus diverses et représentent des intérêts très très différents. Les éducateurs qui avaient choisi et qui étaient vraiment choqués par cette affiche, c'était des éducateurs de gauche qui étaient vraiment offusqués par cette affiche. Ceux qui trouvaient ça tout naturel étaient de droite. Donc maintenant, on ne peut pas dire qu'il y ait une culture nationale française. Il y a la culture de ceux qui sont à droite, la culture de ceux qui sont à gauche, les jeunes versus les vieux, ceux qui ont une éducation comme ci, contre ceux qui ont une éducation comme ça. Donc il y a plusieurs cultures, les cultures professionnelles, les cultures académiques. La culture elle-même, c'est très diversifié. Et donc, ça rend la chose assez difficile pour nous en enseignant le français à l'étranger, quelle culture précisément enseigner. En plus, cette affiche sur les murs du métro, quelques mois après qu'elle a été collée sur les murs du métro, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que vous pouvez vous attendre, Soraya avait des rides et une moustache. Bon, alors il y avait les gens avec les graffitis dans le métro qui se fichaient bien du message original et qui, en fait, comme Mona Lisa avec la moustache, avait utilisé cette culture pour s'en ficher ou pour la ridiculiser, si vous voulez. Donc, il y avait déjà la question qui avait été posée dans mon atelier, c'est, mais à qui cette affiche est-elle destinée? Qui est le client du bon marché? Finalement, pas un magasin de luxe, ce n'est même pas la Samaritaine ou le Printemps ou les Galeries Lafayette, c'est quand même le grand magasin de base. Donc, qui est, si vous voulez, le lecteur prévu, le lecteur intentionné de cette affiche? Et quelles sont les conditions de possibilité de la production de telles affiches et de leur reproduction sur les murs du métro parisien? Mais poser ce genre de questions, quel est le lecteur prévu pour une affiche pareille? Qui parle dans cette affiche? Qui parle à qui? Et quelles sont les conditions de possibilité, les conditions économiques, les conditions financières, les conditions politiques pour qu'une telle affiche soit mise sur les murs du métro? Tout ça, ça pose des questions bien plus larges que simplement le document culturel. Et dès que vous commencez à poser ces questions comme ça, vous cessez de regarder la culture d'une manière moderniste et vous commencez à poser des questions post-modernistes. C'est-à-dire que vous commencez à mettre en question la culture, non pas comme produit, mais la culture comme processus de production, de création. La culture se crée, en fait, au fur et à mesure de la production de telles affiches, des tours de parole et des activités langagières de tous les jours. Donc, une vue postmoderniste met l'accent sur le fait que la culture n'est pas là, et puis la langue est ici. La culture est créée à chaque instant de la production de langage écrit et parlé dans notre vie de tous les jours. Ce qui fait que je voudrais justement capter justement ces deux manières de voir la culture. Il s'agit de penser à la culture en termes d'historicité et de subjectivité. Et j'utilise cette phrase parce qu'il y a quelques semaines, le chef de mon département d'anthropologie à Berkeley, qui est un département assez prestigieux d'anthropologie, le chef du département d'anthropologie nous dit dans une réunion de la faculté, « Ah, l'anthropologie de nos jours n'a plus rien à voir à faire avec la culture. » Je leur dis, « Ah bon, alors vous faites quoi en anthropologie ?» C'est toute une question d'historicité et de subjectivité, nous dit-il. C'est-à-dire que c'est une question des conditions historiques de la production de la mémoire, de la production de sens. C'est comment est produit le sens que nous donnons aux événements, aux gens, aux institutions. Ce ne sont pas les faits historiques, mais leur sens, leur signification, qui sont créés dans un contexte historique avec des résonances affectives et émotionnelles dont nous avons vu un témoignage dans la table ronde il y a quelques minutes. Et donc, pour comprendre la culture au sens de donner du sens à meaning making, si vous voulez, il faut mettre en place justement maintenant des considérations de l'historicité et de la subjectivité des événements auxquels nous avons affaire et que nous devons enseigner. Donc, il s'agit de voir la culture non pas comme un produit stable, ici la tour Eiffel, les monuments, les faits, etc., mais un processus de création permanent à travers le langage, par le langage et autres systèmes symboliques, aussi par la peinture, par les affiches, par la musique, par les arts, mais par des tas de constructions symboliques et par la médiation de ces systèmes symboliques. Donc on ne peut pas parler de la culture comme donnée stable que nous allons enseigner et tester ou évaluer avec fill in the blank et puis vrai ou faux, mais il va s'agir d'une interprétation qu'il va falloir évaluer comme dans le temps nous évaluions des dissertations de littérature ou des compositions, si vous voulez, d'interprétation de poèmes. Et quand je dis ça, je cite Clifford Geertz qui dit que l'interprétation d'une culture est beaucoup plus proche de l'interprétation d'un poème que de faits scientifiques qu'on peut évaluer justement à cocher la case correspondante. Bon, je résume ici avec une, avant de passer à la deuxième phase de ma présentation, par une citation qui m'est chère parce qu'elle vient d'un volume que nous venons de publier de Geneviève Zarat, Daniel Lévy et moi-même, un projet de recherche qui nous a porté pendant 3 ans, 4 ans, et dont Daniel Mohr faisait partie. Et dans l'introduction à ce précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme, vous avez là une citation absolument de choc que je vais vous lire et vous allez voir pourquoi elle est de choc. La pluralité n'est pas définie par la seule coexistence des langues en présence, mais d'abord par cette activité sociale spécifique qui est le produit de la circulation transfrontalière des valeurs, de la dynamique des identités, toujours négociée, des inversions, voire des inventions de sens, souvent masquées par l'illusion partagée d'une communication efficace. Je traduis. Ceci est une attaque directe contre l'approche communicative qui s'imagine que nous allons résoudre tous les problèmes de l'interculturel en négociant, tu me poses une question, moi je te pose une question, tu réponds à ma question, je réponds à... Et nous allons négocier le sens comme on négocie un contrat financier. Ici, ce que les 3 auteurs nommés ici disent, c'est que très souvent, il y a une illusion de compréhension dans l'approche communicative, surtout l'approche communicative vue comme instrumentalisation de la signification, et que les choses sont en fait beaucoup plus complexes. Il s'agit d'inventer du sens pour arriver à vraiment comprendre l'autre, qu'il faut inverser du sens. Qu'il ne s'agit pas simplement, et vous remarquerez que, en particulier, cela vient de Geneviève Zarat, on parle de pluralité et non pas de diversité, parce que le mot diversité sent l'américain. La diversité, on ne voulait rien du tout avoir à faire avec la diversité au sens américain, et donc le terme français est pluralité. Pluralité laisse l'individualité des individus intacte, donc on préférait le terme pluralité, et la pluralité n'est pas simplement la coexistence dans une ère nationale ou un groupe de langues qui sont juxtaposées les unes aux autres, mais d'un effort qui est non négligeable d'essayer de comprendre l'autre à ses propres termes et de traduire l'autre dans ses termes et de traduire ses propres termes dans les termes de l'autre. Et M. de Fontenay en avait parlé dans son introduction. Donc, je vous cite j'utilise cette situation comme transition maintenant à ma deuxième partie qui va en fait vous raconter une histoire. Parce que je me suis trouvée cet été en France et je me dis, mon Dieu, chaque fois que je reviens en France, je suis confrontée avec cette illusion de la communication efficace avec des Français qui sont mes compatriotes, qui parlent la même langue que moi et cependant qui ne me comprennent pas et que je ne comprends pas. Et je ne les comprends pas, mais au moins 5 fois par jour. Et ils ne me comprennent pas, mais on arrive quand même, évidemment, quand même à vivre ensemble, mais on ne se comprend pas vraiment. Et je me suis dit cet été, étant en France, et je prends toujours l'occasion de lire du français quand je suis en France, je me suis dit, il faut que je lise Emmanuel Lévinas. Parce que Emmanuel Lévinas a écrit pas mal de choses sur le fait qu'il faille dépasser le dialogue, par-delà le dialogue. Et je vais vous faire part de mes découvertes. Voilà. J'ai découvert un petit essai de Lévinas, le philosophe français, qui s'appelle « Par-delà le dialogue ». Et je me suis dit, voilà quelque chose qui va m'enrichir et m'expliquer peut-être comment dépasser cette espèce de négociation de sens que prône l'approche communicative. Et dans ce dialogue, qui a été publié en 1967, mais qui a été reproduit dans un livre qu'il appelait « Altérité et transcendance » en 1995, Emmanuel Lévinas explique qu'il est à la recherche d'une proximité par-delà les idées qu'on échange, d'une proximité qui dure même quand le dialogue devient impossible. Par-delà le dialogue, une maturité et un sérieux pour problèmes insolubles. Et moi, retrouvant parmi les miens, si vous voulez, mes proches en France, je cherchais une solution et je me suis dit, peut-être que je vais trouver ça chez Lévinas. Et donc, ce qui m'a intrigué, c'est que Lévinas cite précisément Saint-Exupéry. Et voilà ce qu'il dit. « Avant de sourire de la maturité pour problèmes insolubles, formule dérisoire à la vérité, pensons, comme l'un de mes jeunes élèves, au petit prince de Saint-Exupéry, qui, à l'aviateur, en panne dans le désert, à l'aviateur ne sachant dessiner que le boa digérant l'éléphant, demande le dessin d'un mouton. » Et vous connaissez tous l'histoire, donc voilà le petit prince qui dit « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Bien, rencontre interculturelle s'il y en a. Deux mondes incompatibles. Un pilote énervé et anxieux d'avoir perdu le contrôle de son avion, de ne pas pouvoir réparer son moteur, de ne pas pouvoir repartir, d'accomplir le voyage prévu, d'être à la merci du désert, de la faim, de la soif, et un enfant parachuté sur une terre inconnue face à une grande personne qui parle un autre langage, qui méprise tout ce qu'il tient pour précieux, c'est-à-dire sa rose, son volcan, sa planète, et qui ne pense qu'à son moteur. Le monde des grandes personnes sérieuses contre le monde des enfants. Le monde des techniciens et des ingénieurs et le monde des poètes. Les échanges d'informations et le monde des silences politiques. Rien n'est plus difficile pour l'adulte que d'accéder à la requête de l'enfant. Aucun des moutons dessinés, voilà le boa qui avale l'éléphant. Mais aucun des moutons dessinés le lui plaît, vous vous souvenez? Ils sont béliers ou violents ou cornus ou ils sont trop vieux. Rien ne peut rapprocher les deux interlocuteurs, sauf l'imagination symbolique. Finalement, le narrateur raconte. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le montage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci, et vous le voyez ici, en petit, malheureusement. Et je lançais, ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Vous vous souvenez? Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Et Lévinas conclut. Je ne sais pas dessiner la solution des problèmes insolubles. Elle dort encore au fond d'une boîte. Pardon, il faut que je vous montre la boîte. Je ne sais pas dessiner la solution des problèmes insolubles. Elle dort encore au fond d'une boîte sur laquelle veillent cependant des personnes qui se sont rapprochées. Je n'ai aucune idée, mais l'idée de l'idée qu'il faudrait avoir, le dessin abstrait d'un parallélépipède, berceau de nos espérances, j'ai l'idée d'un possible, ou peut-être dort l'impossible. Ça, ça irait dans le sens de l'invention du sens, l'inversion du sens. Et l'éditeur de Saint-Exupéry, les œuvres complètes de Saint-Exupéry, Michel Autran, écrit « L'extraordinaire n'est pas absent du Petit Prince, il est très limité. L'essentiel est un pacte initial, il est dans la croyance attribuée à la réalité simple de la parole. » En effet, un pacte initial, bien plus que d'une rencontre successive d'éléments merveilleux. En quoi consiste ce pacte entre le pilote et le petit prince? Il s'agit d'un pacte symbolique. Saint-Exupéry, arrivant aux USA le 31 décembre 1940, via Lisbonne, composa le récit du petit prince à New York pendant l'hiver de 1941-42. À une époque où il était convaincu que le nazisme ne pouvait être vaincu que si les États-Unis se décidaient à entrer en guerre. Il faut comprendre que le pouvoir symbolique dont jouissait Saint-Exupéry alors aux USA n'était pas comme pilote de guerre ou comme combattant, il était à la fois anti-gaulliste et anti-pétainiste, mais comme écrivain pour mesurer toute l'importance symbolique du pacte langagier qu'offre le petit prince à une époque où, en pleine guerre, la compréhension interculturelle n'était pas particulièrement en faveur. En quoi consiste le pouvoir d'agir langagier que les enseignants de langue s'efforcent de transmettre à leurs élèves jour après jour dans un cours de langue? La grande personne, l'ingénieur, le technicien, le pilote et l'enfant. Le pacte entre la grande personne et l'enfant, c'est d'abord d'accepter que la langue non seulement représente, mais aussi construit et évoque des réalités symboliques, sous les trois aspects que j'ai mis ici. Représentation symbolique, ce que les mots veulent dire, et les représentations mentales et sociales qui les sous-tendent. Action symbolique, ce que les mots font, et les intentions illocutoires qu'il révèle, et pouvoir symbolique, ce que les mots évoquent, et les identités, les souvenirs et les imaginaires qu'ils déclenchent. Dans ces trois dimensions-là, le langage est un système symbolique, un système de représentation, d'action et de pouvoir symbolique. Le pacte est aussi d'accepter d'entrer dans le jeu de la médiation symbolique avec les six dimensions de particularité dont parle Barbara Johnstone en 2008. La dimension référentielle, par exemple, il s'agit d'un mouton, d'un boa, d'un éléphant dans un boa, un dessin visible aux yeux. Ça, c'est la dimension référentielle du langage. Mais il y a aussi une dimension structurelle. Par exemple, le lexique et la syntaxe dans la phrase « dessine-moi un mouton » ou « non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa ». Toute cette mise en place de la syntaxe, c'est le pouvoir symbolique de la langue de créer des réalités à travers la syntaxe. Il y a aussi la dimension interpersonnelle du langage. Par exemple, vous avez remarqué que le petit prince dit « s'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Donc vous avez un acte de parole ici du langage poli obéissant aux conventions sociales, la manière dont on parle à des gens plus âgés, mais le langage intime de l'enfant à un parent ou à un ami. Donc de nouveau aussi par les actes de langage, cette construction symbolique se crée. Générique, la dimension générique, c'est-à-dire l'évocation d'autres contes ou d'autres genres de la même sorte. Par exemple, lorsque Saint-Exupéry écrit du Petit Prince « Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages », nous, les lecteurs d'aujourd'hui, nous pensons au ballon rouge, nous pensons à Crin Blanc, nous pensons au conte d'Andersen, et cela ajoute une signification de plus au comte de Saint-Exupéry. La modalité que j'ai écrite là-dessus, voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Le mélange du visuel et du verbal dans le Saint-Exupéry fait aussi partie de ce pouvoir symbolique, de cette représentation symbolique du langage. Et évidemment, la dimension silencieuse, c'est-à-dire les non-dits, et des maximes que l'on trouve dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais n'y a-t-il pas une contradiction fondamentale dans le pacte que Le Petit Prince offre aux pilotes naufragés dans le désert, à 1000 miles de toute terre habitée? D'une part, vous avez une présence humaine inattendue, Le Petit Prince ressemble à un être humain, et ce début de dialogue qui réconforte ce pauvre pilote naufragé dans le désert. D'autre part, une impossibilité, un refus même du dialogue entre les deux êtres qui viennent de planètes ou de générations si différentes. Et je vous rappelle que Saint-Exupéry écrit « Mon ami ne donnait jamais d'explication ». Donc il ne s'expliquait pas, il ne racontait pas vraiment ce qu'il ressentait. Il me croyait peut-être semblable à lui. Ça ne me semble pas être un dialogue interculturel tel que nous voulons le promouvoir. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Ce n'est donc pas le dialogue qui va sauver le pilote en détresse, mais l'histoire d'une rencontre entre deux êtres qui reconnaissent leurs problèmes insolubles. Lévinas propose d'aller par-delà le dialogue vers une attitude devant les problèmes insolubles, basée sur la présence de personnes devant un problème, ce qu'il appelle une spiritualité nouvelle, une proximité sans projet défini, une vigilance sans dialogue. C'est extraordinaire. Saint-Exupéry nous demande d'abandonner le dialogue. C'est ce manque de dialogue qui donne au conte de Saint-Exupéry son ton oraculaire, sa saveur de conte de fées, sa tonalité en partie si nostalgique. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry écrit « J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai, car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaye ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. » Donc vous avez ici un texte que tout le monde adore, que les enfants lisent bien, mais qui, en fait, abandonne le dialogue, déclare que le dialogue n'aboutit à rien, qu'on ne peut pas se comprendre avec le dialogue, qu'il faut aller au-delà du dialogue. Et Saint-Exupéry et Lévinas semblent aboutir à la constatation que l'entente entre personnes de cultures différentes ne peut se créer que dans un espace imaginaire, au-delà du dialogue, lorsqu'on a appris à voir les moutons à travers les caisses et à suivre les maximes édifiantes d'un petit prince, d'un renard ou d'une rose. Je vais vous montrer maintenant, 50 ans plus tard, un autre conte qui a été écrit et qui prend exactement l'opposé. Et j'aurai besoin peut-être d'encore 5-10 minutes. Bon. Exactement 50 ans après la publication du Petit Prince, un autre conte, celui-ci raconté par une Américaine, Toni Morrison, à Stockholm, en 1993, lors de la remise du prix Nobel de littérature. Son conte permet peut-être de résoudre la contradiction soulevée par un philosophe comme Lévinas et un écrivain comme Saint-Exupéry. Il s'agit d'un conte qui commence comme monologue, puis se transforme en dialogue, mais d'une nature assez spéciale. Et je vais vous le lire dans ma traduction, je vais vous en lire des passages dans ma traduction en français. Il était une fois une vieille femme, aveugle, mais pleine de sagesse. Dans la version que je connais, la femme est la fille d'esclave, noire, américaine, et elle vit seule dans une petite maison en dehors de la ville. Sa sagesse est sans égale, et sa réputation incontestée. Parmi son peuple, elle est à la fois la loi et sa transgression. Un jour, des jeunes gens viennent lui rendre visite avec l'intention de démentir sa clairvoyance et de la démasquer comme une fraude. Leur plan est simple. Ils entrent chez la vieille femme et lui posent la seule question dont la réponse repose uniquement sur ce qui la différencie d'eux. Une différence qu'ils considèrent comme un handicap fondamental, sa cécité. « Vieille femme, j'ai dans ma main un oiseau. Dis-moi si cet oiseau est vivant ou mort. » Elle est incapable de répondre. Et la question est répétée. « Est-ce que l'oiseau que je tiens est vivant ou mort ?» Elle ne peut toujours pas répondre. Elle est aveugle. Elle ne peut pas voir ses jeunes visiteurs, encore moins ce qu'ils ont dans les mains. Elle ne sait qui ils sont, ni d'où ils viennent. Elle ne connaît que leur intention. Enfin, elle parle, et sa voix est douce et sérieuse. « Je ne sais pas, dit-elle, je ne sais pas si l'oiseau que vous tenez dans vos mains est vivant ou mort, mais ce que je sais, c'est qu'il est entre vos mains. Il est entre vos mains. » Sa réponse peut vouloir dire « S'il est mort, soit vous l'avez trouvé comme ça, soit vous l'avez tué. S'il est vivant, vous pouvez encore le tuer. C'est à vous de décider s'il doit rester en vie. Mais dans tous les cas, il est votre responsabilité. » Et Toni Morrison conclut « Pour moi, l'oiseau est le langage et la femme une écrivaine renommée. Elle pense au langage en partie comme à un système linguistique, en partie comme une chose vivante que l'on peut contrôler. Mais surtout, elle voit dans le langage un pouvoir d'agir, un acte et ses conséquences. » La question que lui posent les jeunes gens a donc une certaine réalité, puisqu'elle repose sur l'idée que le langage est mortel, effaçable. La vieille femme remet les jeunes gens à leur place et leur fait la leçon. Et la narratrice conclut « Nous mourrons, c'est peut-être le sens de la vie, mais nous faisons le langage, we do language, c'est peut-être la mesure de nos vies. » Il semblerait qu'il s'agisse là d'un conte moralisateur bien différent du discours du Petit Prince. Pas vraiment de dialogue, pas d'échange verbal. L'écrivaine, qu'est la narratrice, poursuit son monologue pendant 10 pages, coupant court au dialogue, haranguant les jeunes gens sur leurs responsabilités langagières et sur leurs devoirs comme curateurs d'une langue qui ne leur appartient pas, mais qu'ils doivent maintenir en vie. Mais soudain, le conte recommence. Il était une fois. Des visiteurs posent une question à une vieille dame. « Vieille femme, mais qui sont-ils, ces enfants ? Comment ont-ils compris ces derniers mots « l'oiseau est dans vos mains » ?» Une phrase qui laisse ouverte la possibilité de dialogue ou qui ferme la porte. Peut-être ce que les enfants ont entendu était « ce n'est pas mon problème ». Je suis vieille, je suis une femme, noire, aveugle. Ma sagesse est de savoir que je ne peux pas vous aider. L'avenir du langage est vôtre. » Ils se tiennent là, debout. Et s'ils n'avaient rien dans les mains? Et si leur visite n'avait été qu'une ruse pour se faire enfin adresser la parole, pour se faire prendre au sérieux comme jamais ils n'ont été pris au sérieux? Ils ont des questions urgentes à lui poser, comme celle de savoir si l'oiseau est vivant ou mort. Peut-être leur question voulait dire « Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'est la vie, ce qu'est la mort ?» Pas de ruse du tout, une question toute simple, digne de l'attention d'une femme sage, d'une vieille femme. Et si les personnes vieilles et sages qui ont vécu leur vie et fait face à la mort ne peuvent décrire ni l'une ni l'autre, qui le pourra? Mais elle ne les aide pas. Elle garde son secret, sa bonne opinion d'elle-même. Elle garde ses distances, elle se retire dans son espace sophistiqué et privilégié. Enfin, les enfants frustrés remplissent le silence avec des mots inventés sur le tas. N'y a-t-il donc pas de mots que vous puissiez nous donner pour nous aider à briser le cycle de nos défaillances? Nous n'avons pas d'oiseaux dans nos mains, nous n'avons que vous et notre question urgente. Est-ce que vous ne vous rappelez pas comment c'était que d'être jeune, quand le langage était magique, n'était pas encore lourd de sens? pourquoi ne nous avez-vous pas tendu la main, repoussé la leçon jusqu'à ce que vous sachiez qui nous étions? Est-ce que vous avez tant méprisé notre ruse que vous ne pouviez pas voir combien nous cherchions à attirer votre attention? Nous sommes jeunes, sans expérience. On nous a dit toute notre vie que nous devions être responsables. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire dans la catastrophe qu'est devenu le monde moderne? Comment osez-vous nous parler de devoir quand nous-mêmes nous sommes engloutis jusqu'au cou dans les poisons que nous avons hérités de votre génération? La femme garde le silence. Les enfants s'engagent alors dans un monologue à deux voix. Tu es une grande personne, vieille, sage, s'il te plaît, ne nous dis pas ce que nous devons croire, ce que nous devons faire. Raconte-nous une histoire. Toi seule, vieille femme, peux nous raconter ce que seul le langage sait faire, comment voir sans image. Seul le langage peut nous protéger de la peur des choses qui n'ont pas de nom. Dis-nous ce que c'est que d'être une femme, pour que nous sachions ce que c'est que d'être des hommes. Dis-nous ce qui bouge sur les bords, ce que c'est que de ne pas avoir de chez soi, d'être séparé de ses proches, de vivre aux abords des villes qui ne peuvent pas supporter votre présence. Raconte ce que c'est que d'être dans une charrette pleine d'esclaves et de savoir que cette nuit sera peut-être la dernière, d'avoir froid, d'avoir faim, d'envier les chevaux dont l'urine chaude tombe en trombes sur la terre gelée. Finalement, la vieille femme prend la parole. Maintenant, dit-elle, je vous fais confiance. Je vous fais confiance avec l'oiseau qui n'est pas dans vos mains, parce que vous l'avez vraiment apprivoisé. Regardez comme elle est belle, cette chose que nous avons faite ensemble. Laissez-moi conclure et puis peut-être on aura le temps de discuter. Chacune de ces histoires, l'histoire de Saint-Exupéry, l'histoire de Toni Morrison, nous offre un modèle différent de communication interculturelle. La culture des adultes, avec leurs choses sérieuses, leurs principes moraux, leur expérience de vie, mais aussi leur faillite, leur lâcheté, leur silence. Et la culture des jeunes, avec leurs grandes questions, leurs angoisses, leurs bravades, leurs sans-gêne. Le pacte conclu entre le pilote et le petit prince consiste à imaginer, au-delà des mots, un mouton invisible dans le dessin d'une caisse imaginaire. Grâce à ce pacte, un renard imaginaire laissera au lecteur des maximes inoubliables. Vous vous souvenez, apprivoise-moi, on ne voit bien qu'avec le cœur. Dans les années 40, la moralité humaniste du Petit Prince et l'appel à l'imagination résonnaient encore avec les lecteurs de l'époque. Elle donnait un refuge dans la poésie et dans la littérature à ceux qui étaient engloutis dans la grisaille et le marasme d'une France humiliée, méprisée. Aujourd'hui, le discours moralisant d'une vieille femme ne suffit plus à établir le contact entre les générations. La méfiance des mots est trop grande. Les méfaits du passé pèsent trop lourd. Le monolinguisme des grandes personnes s'avère insuffisant pour se comprendre. Aujourd'hui, enseigner la culture, ce n'est pas enseigner comment donner des réponses correctes, convenables, attendues, mais à poser des questions que personne n'ose poser. Des questions gênantes, à recadrer les questions posées, à changer de sujet et à introduire d'autres sujets plus pertinents et plus urgents. L'enseignement de la culture en didactique des langues est devenu plus complexe depuis que la mondialisation a diversifié les cultures nationales, fragmenté les lieux de mémoire et dévoilé les incompatibilités fondamentales entre représentation, idéologie et discours. Au lieu de monologue, les jeunes réclament aujourd'hui le dialogue. Non pas un dialogue fait de questions et de réponses toutes faites et de négociations d'informations, mais une capacité réflexive à recadrer le discours de l'autre, à traduire l'expérience de l'autre dans son propre vocabulaire, ce qui est exactement ce que les jeunes ont fait avec cette vieille femme, et à dire sa propre expérience dans le vocabulaire de l'autre. Ce dialogue-là est une construction symbolique, à plusieurs voix, qui engage la langue, l'esprit et le cœur de ceux qui sont ou cherchent à devenir plurilingues et pluriculturels. Mais c'est aussi une construction qui reconnaît et respecte les limites du dialogue et qui sait quand, par-delà le dialogue, la littérature, la musique ou la poésie doivent prendre la relève de la compétence de communication. Merci de votre attention.